dans vos deux restaurants Cosmos, sur le boulevard Laurier et le boulevard des Galeries.
6 heures du matin, le cadran sonne. J'ouvre la radio. Trop de musique. Je change de poste pour entendre parler.
Ben oui, encore des taxes, ben oui.
Ça fait que chialer. Du coup, j'ai fermé la radio. Ma copine me dit:
voyons, pourquoi t'as fermé la radio?
Je lui ai dit, c'est pas pour moi. Au travail, j'ai parlé de mon problème à Jean-Steve. Il a toujours de bons conseils.
10% de ta paye, drette dans un CELI.
Il m'a parlé d'une radio.
Connais-tu ça, Boulevard 102?
Je lui ai dit que non. Il m'a dit:
non, non, faut que t'écoutes ça.
Bref, maintenant, j'écoute Boulevard 102. Merci, Jean-Steve.
Boulevard 102.1. Marceau Soir, présenté par Voyage Aquaterra Lévis, Québec. Visitez la nouvelle agence de Québec. Maintenant, deux adresses pour vous servir. Boulevard Bastien à Québec et avenue Taniata à Lévis.
Marceau le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée.
Salut, bonsoir, bienvenue sur les ondes de Boulevard 102 à Québec, en espérant que vous ayez passé une belle journée. Certes, on va passer 60 minutes ce soir qui seront exceptionnelles, parce que j'ai toujours des invités exceptionnels, et c'est encore une fois le cas ce soir. J'ai le plaisir d'accueillir Patrick Côté, qui est animateur à RDS, qui est un ex-combattant MMA et qui a fait aussi une bonne carrière dans la UFC. C'est aussi un conférencier aujourd'hui. On va aller le saluer. Il est en direct de sa maison. Là, on est sur Zoom présentement. Salut Patrick.
Salut, merci de me recevoir.
Ben, merci d'être là avec nous autres. Je sais que tu fais beaucoup de choses. Tu fais de la télé, tu fais des conférences. Fait que de prendre un peu de temps pour jaser avec tes fans puis nous en apprendre un peu plus sur la personne que tu es, ça nous fait grandement plaisir que tu sois avec nous. Patrick Côté, pour les gens qui te connaissent pas, tu sais, ton début de carrière, je pense que t'as fait une transition vers Québec à un certain moment. Là, t'as commencé à une école de Québec pour ce qui est de la MMA.
Oui, exact. Ben, dans le fond, moi, je suis allé à Québec parce que j'étais militaire, donc je suis rentré dans l'armée, dans le 22e régiment. Puis pendant mes années militaires, je suis tombé en amour avec les sports de combat. Puis j'ai trouvé une équipe qui s'appelle Team Union dans ce temps-là, le coach en chef Philippe Lagacé, qui m'a pris sous son aile, qui voyait ma détermination avec mon manque de talent. Donc, il a vraiment cru en moi. Puis aujourd'hui, je peux le remercier à toutes les fois que je peux le remercier, parce que c'est vraiment à lui vraiment qui m'a pris sous son aile, puis qui a dit: OK, je pense qu'il y a de quoi à faire avec ce gars-là. Mais, malgré que je n'étais pas destiné peut-être à devenir un grand athlète, mais j'étais un combattant. Puis j'avais vraiment une bonne discipline justement parce que je m'étais trouvé une passion, puis c'est ça qui me faisait lever le matin. C'était ce sport-là. Ouais. Puis je suis resté avec eux jusqu'à mon premier combat à l'UFC. Puis après, il y a quelque chose qui s'est passé, qui se passe pas souvent dans le monde des sports. C'est que mon entraîneur, Philippe Lagacé, à un moment donné, il m'a regardé et il a dit: OK, là, je pense que c'est le temps que tu t'en ailles, parce qu'on ne peut plus te faire avancer. Donc ça, c'est une grande humilité incroyable que tu... Dans le monde des sports, tu ne vois pas ça. Le monde sont très égoïstes, ils veulent tout garder le succès pour eux, mais lui, pour mon bien-être à moi, il m'a dit: c'est le temps que tu t'en ailles ailleurs, parce qu'ici, tu ne vas plus avancer.
Il avait vu ton potentiel à ce moment-là. T'as été dans l'armée pendant combien d'années?
Pendant 6 ans. J'ai servi en Bosnie en 2002.
Ah oui?
Oui, avec le 22e régiment. Une belle expérience de vie. Il y en a qui m'ont dit: ouais, mais t'es allé sur le terrain. Oui, mais je pense que ça m'a amené apprécier beaucoup plus les choses qu'on est ici. Je pense que j'ai vu aussi la misère là-bas. Quand tu reviens, tu t'aperçois que t'es privilégié de qu'est-ce que t'as aussi. Ça m'a donné une discipline. Je pense que l'armée, ça m'a donné une discipline pour être un meilleur athlète aussi, parce que quand t'es un athlète professionnel, il faut que tu vives comme un athlète professionnel.
Ouais.
Donc, c'est une discipline de vie et des sacrifices qu'il faut que tu fasses si tu veux atteindre les plus hauts sommets, si tu veux atteindre l'élite mondiale. Assurément, ça m'a aidé à devenir un meilleur athlète.
OK. Et ton désir d'intégrer l'armée canadienne, est-ce que c'était quelque chose que tu rêvais depuis que tu étais tout jeune?
Pas vraiment, non. Moi, je viens d'un petit village de Saint-Narcisse de Rimouski. À Rimouski, là, tout le monde connaît Rimouski, mais quand tu t'en vas dans les terres, tu vas passer 4-5 villages, puis tu vas arriver au mien. C'est tout petit, ça. Là. Il y a 5-6 rues, il y a une église en plein milieu. C'est vraiment figé dans le temps, mais... C'est là qu'il y a la meilleure tourtière, puis c'est là que le monde sont les plus fins. Le monde, on cœur, personne ne barre leur porte là-bas. Tu vois un peu le style de gens qui sont là-bas.
Ouais.
Puis moi, c'est très important pour moi de dire d'où je viens, parce que les racines, je pense que c'est là que tu vas découvrir c'est quoi la vraie personnalité des gens, quand tu n'oublies pas d'où ce que tu viens. Puis à toutes les fois que j'ai eu du succès dans ma carrière, j'ai eu des très, très gros hauts, j'aurais pu perdre la tête, j'aurais pu devenir arrogant ou tête enflée. Je retournais dans mon village, puis j'étais pas le gars qui passait à la télé, j'étais pas le gars qui s'est battu à travers la planète au complet. J'étais le petit gars du village, puis ça faisait du bien, tu sais. Puis quand j'ai été élevé par une mère monoparentale, on est allé à Sherbrooke après. Puis jusqu'à temps que j'aie 18 ans, je faisais du sport de haut niveau, le soccer. Puis à un moment donné, j'ai commencé à travailler dans un bar. Puis l'école, pour moi, c'était assez facile au secondaire, mais au cégep, c'était compliqué parce que tu te laisses à toi-même au cégep, là. Donc ça, c'était pas une bonne chose pour moi. Donc, fait que c'est ça qui est arrivé. Puis à un moment donné, ben, je me suis dit, OK, à 19 ans, à presque 20, je cherchais quelque chose à faire, je voulais quelque chose qui bouge. Je me suis peut-être fait avoir par la vidéo de recrutement là, qui disent que tu lances des grenades à tous les jours puis que tu vois.
Oui, ben, il passait ce vidéo-là régulièrement dans les salles de cinéma. Puis c'était tellement dynamique avec la musique rock'n'roll, tu disais ben wow, tu sais, tout le monde va être dans l'armée canadienne.
Ouais, exact. Le rêve de petit gars d'être un Rambo puis jouer au G.I. Joe, tu sais. Puis je me suis enrôlé dans l'armée, dans au 22e régiment. J'ai été affecté au 2e bataillon, puis ça a été 7 ans de ma vie que, écoute, je ne retournerai pas dans l'armée, mais je ne regrette pas ces années-là, c'est sûr.
Puis qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu as pris une décision, c'est que tu as quitté l'armée pour faire autre chose? Ça a été quoi?
Ben, j'étais plus bien, dans le fond. Je veux dire, ça a l'air bizarre à dire, là. Le monde, ils vont dire que je ne suis pas mon histoire, là, mais j'étais tanné de la discipline, t'sais. Puis c'est pas mal la base de l'armée, je dirais. Mais moi, j'étais très bon pour faire le travail. J'étais bon sur le terrain, mais j'étais pas bon en garnison. Ça veut dire, j'étais vraiment pas bon dans les inspections. Pour moi, si ça faisait pas de sens de couper mes cheveux en haut des oreilles puis être laid, j'allais pas courir plus vite, là. Mais je comprends que c'était une discipline. Puis à un moment donné, là, j'ai commencé à devenir un combattant. J'ai été un combattant professionnel quand j'étais dans l'armée aussi. Puis en 2004, j'étais juste tanné. J'ai demandé à l'armée si je pouvais prendre un an congé sans solde pour essayer de faire carrière dans ce sport-là. Parce que je te rappelle qu'en 2003-2004, c'était pas populaire comme aujourd'hui. Là. C'était très underground. Le pourcentage de réussite à l'UFC d'un Canadien, Français, Québécois était en bas de, je te dirais, 2%, je te dirais, là, de faire carrière là-dedans. Finalement, vu que j'étais plus bien, j'ai décidé de briser mon contrat en 2004. Puis à partir de là, je me suis toujours promis, je disais plus jamais je vais me lever le matin, puis j'aimerais pas ce que je fais. Puis ça a bien tourné. Puis je te dis que depuis 2004, c'est pas mal ça qui arrive à tous les matins, je me lève.
Puis t'as commencé dans quelle discipline? Le judo, la boxe?
J'ai fait du judo quand j'étais plus jeune. Mais c'est vraiment quand je suis arrivé à Québec, j'ai commencé à faire de la boxe au Club Le Cogneur. Puis j'ai assimilé ça assez rapidement à la boxe, puis je suis comme tombé en amour avec ce sport-là. J'ai fait mon premier combat amateur en 99 ou 2000, en tout cas, puis je me suis fait vraiment sacré de voler. Puis je suis tombé en amour avec ce sport-là, pareil. Toute l'adrénaline, tout ça, puis je pense que mon premier combat amateur, j'étais au-dessus de mes affaires aussi. Je pensais que ça allait être beaucoup plus facile.
Ouais.
Puis finalement, ça m'a remis les deux pieds sur terre, puis c'est là que j'ai vraiment commencé à prendre ce sport-là au sérieux. Puis en essayant de faire justement de faire carrière là-dedans.
Tu sais, des fois, les gens nous écoutent parler quand on parle d'MMA ou quand on parle de boxe et tout ça, mais on peut jamais ressentir ce que les combattants ressentent tant aussi longtemps qu'on n'a pas reçu un bon coup de poing d'en face de la part d'un vrai boxeur. Moi, j'ai eu la chance de m'entraîner sur Saint-Vallier avec un gars qui s'appelait Richard Lévesque. Mm-hmm. À un moment donné, il nous avait fait faire un combat. Puis c'était la première fois de ma vie que je recevais un coup de poing d'en face. Puis c'était peut-être même un KO, j'ai fait une commotion cérébrale, je ne sais pas. Mais bon Dieu, je ne m'imaginais pas à quel point ça frappait.
Ben, Mike Tyson a dit toujours, hein, tu as toujours un bon plan jusqu'à temps que tu reçoives un coup de poing sur la gueule. Ah, donc, et il est forcé d'admettre qu'il y a vraiment raison. Puis ça surprend, je vais me souvenir tout le temps. Moi, le premier coup de poing, le vrai coup de poing que j'ai reçu avec des gants d'arts martiaux mix, dans le temps, on appelait ça du combat extrême, il n'y avait pas encore le terme arts martiaux mix. Ça surprend. Tu sais, c'est quasiment insultant aussi. C'est quasiment comme une claque dans la face, on dirait. Puis là, t'es comme, OK, c'est ça, là. C'est ça, tu sais. Tu peux pas avoir plus... Ben, moi, t'enlèves le gant, là, mais tu peux pas avoir plus raw que ça, tu sais.
Ouais, c'est ça. Puis de te contrôler aussi, parce qu'il faut que tu gardes ta tête. Là, tu viens de recevoir 2-3 mornifs dans la face, mais il faut que tu sois capable de conserver toute ta tête pour pas faire n'importe quoi, tu sais. Il faut que tu sois en contrôle de tes gestes, parce que n'importe qui reçoit un coup a tendance à perdre un peu les pédales. Mais vous autres, la différence, c'est que vous devez quand même rester focus et concentré, même si ça fait mal.
Ouais, absolument. Puis, faut que tu contrôles. C'est le contrôle des émotions qui est le plus dur à faire. Puis, honnêtement, tu sais, tu dis si ça fait mal. Dans un combat, tu sens pas grand-chose. Honnêtement, là, le coup de poing, tu vas le prendre ou tu vas être knock-out. C'est un des deux. Puis, la douleur dans un combat, tu ne sens pas vraiment. Je te dirais, la seule chose que tu vas sentir vraiment, c'est un bon coup de pied dans les jambes, là, le coup de tibia qui va arriver dans la cuisse. Ça, là, ton corps risque de geler pendant 5 secondes. Ça te prend un bon poker face pour pas que tu montres à l'autre que ça a fait mal. Mais le reste, que ce soit des coups de poing, que ce soit n'importe quoi, avec l'adrénaline, avec tout ce qui se passe autour, t'es comme dans un espèce de twilight zone, dans une zone que c'est dur à expliquer, mais tous tes sens sont comme décuplés. T'es capable de voir, on dirait, beaucoup plus loin. Tu sens tout le grain du tapis en dessous de tes pieds. T'as quelqu'un qui va dire quelque chose dans 8e rangée au centre d'elle quand il y a 20 000 personnes, on dirait que je vais l'entendre, je vais être capable de l'isoler, puis je vais l'entendre. Les lumières, c'est encore plus clair. C'est bien bizarre à expliquer, mais tes sens sont complètement, sont vraiment 100% plus développés que quand tu es dans cette situation-là. Mais
est-ce qu'on est dopé à l'adrénaline quand on est dans ce style de sport-là? Parce que, tu sais, ceux qui ont déjà vécu cette sensation d'avoir de l'adrénaline qu'on peut avoir quand on fait du parachute, exemple, quand on arrive là, sur Terre et on est en vie, là, bon Dieu, qu'est-ce comme un hype de plus. Est-ce qu'on devient dopé à l'adrénaline à ce style de vie-là que tu as eu pendant un certain temps?
Absolument, puis je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de combattants qui font le combat de trop, parce qu'ils sont pas prêts à mettre cette adrénaline-là de côté. Donc, ils s'accrochent, puis à un moment donné, il faut que tu sois plus intelligent que le sport aussi. Donc, il faut que tu sois plus intelligent de « OK, j'ai fait ce que j'avais à faire dans ce sport-là », parce que on joue au hockey, on joue au baseball, mais on joue pas à se battre.
Ben non.
Puis c'est quelque chose qui est extrêmement dangereux si tu t'en vas là, puis t'es pas 100% physique et mentalement prêt. Donc, si tu vas là parce que tu n'es pas capable de décrocher, puis c'est juste la roche d'adrénaline qui te fait aller là, mais que tu n'es pas prêt vraiment à... C'est un instinct de survie à un moment donné aussi, là. Ça devient dangereux, puis on a vu souvent des combattants, même des super vedettes qui se sont accrochés très longtemps, puis dommage, ils ont fait le combat trop, puis aujourd'hui, on se souvient de ce combat-là, on a oublié un peu ce qu'ils ont fait dans leur carrière.
À quel moment le jiu-jitsu est rentré dans ta vie?
À Québec, quand vraiment, le Team Union, c'était une équipe de jiu-jitsu brésilien à la base.
Okay.
C'était vraiment, vraiment ça. Puis, à cause que moi, quand j'étais arrivé, je voulais faire des arts martiaux mixtes, qui, je répète, dans ce temps-là, on appelait ça encore des combats extrêmes. Ils ont comme adapté un peu l'entraînement pour moi. Il y avait Frédéric Poirier qui était là, qui était un excellent boxeur, qui lui également faisait des combats extrêmes avec UCC, TKO dans ce temps-là, très longtemps. Donc, lui, c'est un excellent boxeur. Il avait été sur l'équipe canadienne de boxe aussi avec Stéphane Ouellet et compagnie. Donc, lui était dans cette équipe-là aussi, donc on pouvait faire de la boxe ensemble. Mais à la base, c'était vraiment une équipe de jiu-jitsu brésilien, puis ils se sont ajustés à mon désir de vouloir compétitionner dans ce sport-là par la suite.
OK. Ton entraîneur à Québec t'a dit, Patrick, tu vas devoir nous quitter, puis tu vas devoir stepper up. Ça a été quoi ton step supplémentaire, ton geste supplémentaire qui a fait en sorte qu'on se parle, toi puis moi, aujourd'hui, puis tu as connu la carrière que tu as connue dans l'UFC?
Ben, je te dirais, au début, je voulais rien savoir. Tu sais, moi, je suis un gars qui est très fidèle en amitié, puis avec mon équipe aussi. Je suis parti parce qu'il me l'a demandé, sinon je serais pas parti, tu comprends? Puis après ça, quand je suis parti à Montréal ici, je suis venu m'entraîner avec Brazilian Top Team, avec Fabio Holanda, puis je suis resté avec lui jusqu'à la fin de ma carrière. Je suis resté avec le même entraîneur de conditionnement physique tout le long de ma carrière. J'ai été m'entraîner ailleurs, c'est sûr, mais ma base, elle a toujours été les mêmes. Puis, je me suis battu pour le championnat du monde en 2008. Puis après ça, j'ai perdu 2 combats après. Puis là, l'UFC m'a sacré dehors. Puis là, le monde m'a dit, c'est peut-être temps que tu changes d'équipe. Pour moi, ça ne faisait pas de sens. T'sais, je me suis rendu au combat de championnat du monde avec cette équipe-là. Pourquoi, là, tout d'un coup, ils sont plus bons? T'sais, c'était à moi à changer peut-être ma mentalité d'arriver quelque chose. Puis, tu sais, pour moi, ça ne faisait pas de sens. Puis c'était une solution facile aussi. Juste dire, c'est pas de ma faute, c'est de leurs autres. Non. Tu sais, à un moment donné, il faut que tu t'assoies puis tu prends le blâme toi aussi. Puis je suis revenu à l'UFC en 2012. Puis j'ai terminé ma carrière là 5 ans plus tard, en 2017, avec la même équipe.
The Ultimate Fighter, c'est arrivé quand, ça, dans ta carrière, dans le processus pour arriver dans l'UFC?
Bien, c'est arrivé à 2 reprises. En 2006, moi, j'avais déjà 3 combats à l'UFC en 2006. Ils m'ont invité à l'ultime combattant. C'était la 4e saison. Ils appelaient ça de comeback. C'était des combattants qui avaient déjà tout combattu à l'UFC, mais avec une fiche perdante, mais qui voyaient un meilleur potentiel que leur fiche comme telle à l'UFC. Bon, moi, j'ai commencé à quand même rough à l'UFC là, avec mes trois défaites consécutives, notamment mon premier combat contre Tito Ortiz, qui était assurément une défaite, mais c'est la meilleure chose qui m'est arrivée dans ma vie. Puis, le Dad Ultimate Fighter, la quatrième saison, je me suis rendu jusqu'en finale, et en finale, j'ai perdu. Donc et j'ai perdu contre Travis Luther. Ça a été une défaite qui m'a fait quand même assez mal parce que le grand prix de cette saison-là, c'était un combat de championnat du monde contre Anderson Silva. Donc finalement, j'ai perdu la finale. Et là, vu que les combats dans l'émission ne comptent pas sur ta fiche, donc j'étais 0-4 à l'UFC. Mes quatre premiers combats, je les ai perdus. Donc là, j'avais comme une espèce de malédiction de l'octogone de l'UFC. Je me disais, ben voyons, je suis invaincu ailleurs, je suis imbattable à l'extérieur, au Canada. Personne ne me bat, personne n'est même proche. Mais rendu à l'UFC, je donnais des très bons combats. J'ai fait le combat de la soirée en 2006, quand je me suis battu contre Chris Lieben, juste avant de rentrer dans l'émission. Puis j'ai perdu par décision partagée. Fait que c'était des très, très, très bons combats. Je n'étais pas capable de boucler la boucle, d'aller chercher cette victoire-là. Puis finalement, en 2007, lorsque j'ai gagné mon premier combat face à Scott Smith à l'UFC 67, là, ça a comme enlevé une tonne de pression, puis je suis parti sur une séquence de victoires jusqu'à un combat de championnat du monde.
Très impressionnant. Mais comment ton arrivée avec le UFC, comment on fait quand on est un combattant, quand on se dit « moi, je vais être dans grosse ligue », là, comment toi, t'as fait pour atteindre le UFC? Qui t'a invité la première fois?
Ben, il faut dire que c'était très différent hein, dans ce temps-là aussi. Là, aujourd'hui, là, je te dirais, la façon de rentrer à l'UFC, la méthode est plus facile parce que tu as plus d'options. Tu peux rentrer par The Contender, tu peux rentrer par l'Ultime Combattant. Et il y a beaucoup plus de promotions maintenant, il y a beaucoup plus d'événements aussi, donc il y a besoin de combattants. Je ne te dis pas que le processus est plus facile, mais la méthode, il y a plus d'options, je te dirais. En 2004, c'est très difficile. T'sais, il y avait David Loiseau qui s'était battu en 2003, qui est le premier Québécois qui s'est battu à l'UFC. Et après ça, en 2004, Georges et moi, on est rentrés dans la même année à l'UFC. On avait le même gérant dans ce temps-là, qui nous a tous fourrés de NOA. Peu importe, c'est un autre sujet. Tout le monde le connaît, de toute façon, j'ai pas besoin d'en parler. Et finalement, j'étais champion canadien d'arts martiaux mixtes, de combat extrême dans ce temps-là. Puis j'étais supposé me battre à l'UFC 50, à Atlantic City en 2004, dans la sous-carte de l'événement. Et l'événement principal, c'était Tito Ortiz qui se battait contre Guy Mesger. Tito Ortiz, ceux qui ne connaissent pas, il faut dire que dans ce temps-là, en 2004, c'est le poster boy de l'UFC. C'était la plus grande vedette de l'UFC. C'est le premier qui a commencé vraiment à faire du trash talk. C'est l'inventeur du ground and pound, l'ancien champion du monde. Je dis, c'était un monument là, dans l'organisation dans ce temps-là. Et c'était en même temps mon idole. J'avais appelé mon chien Tito un an et demi avant ce combat-là. Il était sur mon screen, c'est vrai, à toute fois, j'ouvrais le... C'était ridicule. Là. Puis, quatre jours avant qu'on parte pour l'événement, moi, je m'allais me battre contre un gars qui s'appelait Marvin Eastman, premier combat de la sous-carte. Guy Mesger, il a une embolie cérébrale. Donc, il n'a pas pu se battre. Et il faut expliquer que dans ce temps-là, il y avait peut-être une dizaine, même maximum, une dizaine d'événements par année. Là. Donc, il ne faut pas se permettre de perdre le main event qui était Tito Ortiz. Tout le monde s'est déplacé pour ça. Il ne faut pas se permettre de perdre ça. Et ils ont appelé tout le monde probablement qui était dans le roster à 205 livres pour remplacer Guy Mesger à 4 jours d'avis. Tout le monde a refusé. Et moi, j'étais la dernière ressource. Et ils nous ont appelés. Et finalement, on a dit oui. Puis je te dirais quand même, tu sais, dans mes conférences, je le mentionne aussi, il y a des décisions souvent que le monde va penser que c'est suicidaire ou que c'est pas bon. Mais moi, la meilleure décision que j'ai prise dans ma vie, c'est le 22 octobre 2004, quand j'ai dit oui à me battre contre Tito Ortiz à 4 jours d'avis. Tu vois, le monde m'en parle encore aujourd'hui. Ce combat-là, il est imprégné dans ma carrière. Je l'ai tatoué sur moi, pas à cause des cicatrices, mais le monde, il se souvient de ça, tu comprends? Puis je dis souvent au monde aussi, c'est important d'échouer aussi dans la vie. Comme ça, tu sauras pas si tu es capable de t'améliorer. Et moi, ce combat-là, j'ai perdu le combat, mais j'ai gagné la soirée. Je n'étais pas supposé d'être là. J'étais un nobody. J'étais un remplaçant de dernière minute, puis vraiment le remplaçant des remplaçants. Et finalement, ben, j'ai perdu par décision. J'étais encore debout à la fin de la soirée. Puis à la fin de la soirée, tout le monde parlait de ma performance et non pas de la victoire de Tito Ortiz. Donc, la meilleure chose qui m'est arrivée, c'est de perdre ce combat-là, de cette façon-là. Et après ça, c'est pour ça qu'on se parle aujourd'hui. À cause de 22 octobre 2004, j'ai pris cette décision-là.
On n'entend pas ça souvent, puis c'est le fun d'entendre, Patrick. Est-ce que tu as dit à Tito Ortiz, à un moment ou l'autre, que tu avais appelé son chien Tito?
Non, parce que moi, je me disais, la seule façon que je peux gagner ce combat-là, la seule place que je peux gagner, c'est dans le trash talk. Donc, avant le combat, je disais qu'il avait l'air de Jay Leno parce qu'il avait un menton aussi gros que lui, fait qu'il allait être facile à accoucher. Donc, c'est plus là-dessus, tu sais, j'essayais, parce que lui, c'est un bon trash talker aussi, mais, tu sais, surprenamment, j'avais gagné cette bagarre-là. Du trash talking. Peut-être que ça l'a mis plus en maudit, puis c'est pour ça que ça n'a pas bien été dans le combat. Mais peu importe, ça a été une expérience incroyable. Puis même à mon dernier combat à l'UFC en 2017, donc 13 ans plus tard, lorsqu'ils font le vidéo de présentation des combattants avant le combat, bien, il y avait encore des images de Tito Ortiz. Donc c'est un combat qui m'a défini toute ma carrière.
Avant cette décision-là d'aller te battre contre lui, bon, tu savais que tu t'en allais à l'abattoir, là, mais tu avais quand même espoir qu'il se passe quelque chose puis que tu réussisses à l'avoir. T'as-tu eu de la misère à dormir? T'as-tu dit, hey, y a-tu des choses qui me restent à apprendre? T'as-tu étudié ces vidéos? T'as-tu essayé de voir s'il n'y avait pas des faiblesses que tu pouvais peut-être exploiter? Ça devait pas être facile ces 4 jours-là avant le combat?
Bien, je te dirais, c'est ça qui m'a le plus aidé, parce que ça passait tellement vite. J'ai pas eu le temps de penser. Mettons, je l'aurais su un mois avant. J'aurais été un mois à penser, OK, je m'en vais me battre contre mon idole, contre Tito Ortiz, puis j'ai pas eu le temps. Tu sais, on s'en allait prendre l'avion. J'étais arrivé à Philadelphie. On a pris l'autobus pour aller à Atlantic City. Après ça, bien, on a eu les entrevues. On a eu la pesée. J'ai cligné des yeux. Il était à l'autre bord de l'octogone. Il sautait. Il voulait m'arracher à la tête. Il y a eu le combat. Ça a fini. Je suis reparti chez nous. Okay. Tu sais, ça a été comme vraiment très, très rapide. C'est pour ça, je pense, que j'ai performé de cette façon-là, parce que j'ai pas eu le temps d'être nerveux, parce que j'ai pas eu assez de temps, justement, pour me mettre dans cet état-là.
Est-ce que les gars, tu sais, qui sont à Québec, qui rêvent de faire du UFC, sont au courant des steps qu'ils peuvent avoir dans leur vie? Puis, tu sais, le parallèle que je peux te faire, c'est un parallèle que moi, je connais, c'est au hockey, tu sais. J'ai jamais évolué dans des gros calibres de hockey, mais j'ai tout le temps joué dans des ligues de garage avec des gars qui ont évolué dans des catégories qui étaient supérieures aux miennes. Puis, je m'en tirais quand même bien d'affaires. Mais le jour où il y a eu la fameuse grève dans la Ligue nationale de hockey, à l'Arpidrome à Charlebourg, les gars de la Ligue nationale sont venus jouer avec nous autres. Patrick, je veux dire, je m'attendais jamais à ce style de jeu-là. Je m'attendais jamais à cette vitesse d'exécution, toute la synchronisation, les tirs qui étaient toujours, qui touchaient toujours la cible. Est-ce que les gars qui veulent un jour faire du UFC sont au courant des steps qu'ils vont affronter? Parce que toi, t'es parti de Québec, t'as monté ta petite affaire, t'as pris de l'expérience, puis là, tout d'un coup, tu t'arrives comme t'as le champion du monde. C'est complètement fou ce qui t'est arrivé, là.
Ouais, je te dirais, mon parcours est quand même assez atypique, mais tu sais, c'est le mien, puis tout le monde a un parcours différent, tout le monde a un parcours unique. La différence avec le sport des combats, c'est que t'es, malheureusement ou heureusement, là, peu importe, ça dépend comment tu le prends, mais tout le monde pense qu'ils sont capables de se battre. Parce que c'est le plus vieux sport au monde, parce qu'on s'est tous déjà battus dans le cours d'école, parce qu'on s'est tous déjà battus avec nos frères, nos sœurs, avec nos cousins, dans le salon. Il y a du monde qui se vend, qui sont invaincus dans la rue. Tu sais, des choses comme ça. Tu sais, fait y a, jusqu'à temps que tu te mettes le pied dans le gym, que tu te fasses agripper par une ceinture noire de jiu-jitsu brésilien, tu peux pas savoir c'est quoi être dans le trouble, pour vrai. Donc, c'est ça, c'est souvent ça le problème, que tu regardes le produit fini, puis... Puis souvent, le monde vont critiquer, ils sont dans le salon, puis ils mangent des Doritos, ils vont dire pourquoi il a tapé là-dessus, pourquoi il a abandonné sur une guillotine, moi j'aurais sauté par-dessus. Ben oui, tu sais. Puis c'est comme tout le monde critiquait Georges St-Pierre à la fin de sa carrière parce qu'il faisait souvent des combats qui s'en allaient à décision, puis le monde trouvait ça plate. Hey, mon chum, t'es pas content, entraîne-toi, puis va le battre. Tu sais, je dis, c'est ça aussi à un moment donné. Puis ce que je trouve plate un peu ici, puis là, je généralise, là, je pointe pas personne du doigt, là, mais à l'UFC, là, ils sont 4 Québécois présentement, OK? Puis on a de la difficulté, même dans la défaite, dans la victoire, mais même dans la défaite, on critique énormément, puis on a de la difficulté juste à être en arrière de nos athlètes dans ce sport-là, parce que peut-être pas qu'ils ont le crédit qui leur revient, parce que justement, c'est un sport qui... C'est plus vrai que c'est un sport jeune, mais c'est un sport qui est quand même tabou encore. C'est correct, c'est pas fait pour tout le monde, mais il y a une raison pourquoi moi j'ai écrit un livre qui s'appelle Dans l'Octogone en 2020, qui est une encyclopédie sur les arts martiaux mixtes, puis avec des expériences personnelles. Puis il est encore en vente un petit peu partout dans les librairies. Puis sais, mon but avec ce livre-là, c'était pas que t'aimes le sport. Je veux pas te convaincre d'aimer le sport, mais je veux te convaincre de respecter les athlètes qui font ça. Tu sais, il y a une nuance entre... Avant, c'était des combattants qui faisaient du combat extrême. Maintenant, c'est des athlètes qui font des arts martiaux mixtes. Ouais. La nuance, est, pour moi, est extrêmement grande à mes yeux parce qu'on a... Maintenant, on a un nom pour le sport... Et tu as des anciens athlètes olympiens de judo, de boxe, peu importe, qui viennent finir leur carrière en arts martiaux mixtes ou en lutte même olympique pour faire des sous. Tu comprends? Alors, moi, c'est sûr que moi, je vais me battre contre un ancien champion olympique en lutte. Ça se peut que je me tienne loin, tu comprends? Donc, les athlètes sont rendus à un niveau tellement, tellement bon. Le sport va tellement vite. Au niveau de l'amélioration des qualités athlétiques des combattants, c'est phénoménal.
Est-ce que tu avais écouté le film de Jean-Claude Van Damme dans le temps? Je pense que ça s'appelait Bloodsport. T'avais-tu déjà tombé
ben,
sur
oui.
ce film-là? Les débuts du UFC, là, ben, je ne sais pas si ça s'appelait UFC dans le temps, mais moi, je me souviens ouais. des débuts. Tu sais, je veux dire, il n'y avait même pas de gants. Puis il se tapait sa gueule. Puis moi, je me disais, mais voyons, je pensais que c'était juste un film, tu sais, Jean-Claude Van Damme. Là, les gens, ils avaient tout leur style particulier. Puis il y en a un qui, mm-hmm. était, qui était gros, qui était obèse, qui ne savait pas se battre, mais quand il en pognait un, il te l'assommait. Tu sais, c'était-tu un peu ça, les débuts du UFC? Ça ressemble
absolument. Puis, ben oui, c'était ça. Il n'y avait pas de quadrille de poids. Il y avait trois règlements. Tu n'avais pas le droit de crever les yeux, pas le droit de mordre, pas le droit de mettre aucun doigt dans aucun orifice. C'était ça, les trois règlements. Tu sais. Puis il n'y avait pas de quadrille de poids. Puis c'était tous des combattants unidimensionnels. Mais il fallait que ça commence à quelque part. Puis,
essaye d'expliquer ça à ta femme que tu t'en vas faire ce sport-là après. Après y avoir dit les trois règlements, là, explique à ta femme que tu
ouais.
t'en vas faire ça.
Oui, ben, c'est ça, exact. Puis tu sais. Puis ça a été une des raisons pourquoi ça a pris du temps avant que ça soit accepté, puis il m'en manque encore aujourd'hui. Tu sais, il y a eu beaucoup de combats sur des réserves indiennes aussi parce que c'était illégal un petit peu partout. Tu sais, le sport ouais. a été, je dirais, mal vendu au départ, mais maintenant, il fallait qu'il y ait un début à quelque part aussi. Donc, à partir de l'UFC 10, 11, 12, on a commencé à rajouter des règlements pour que ça devienne plus, je dirais, télépopulaire, admettons, pour avoir des contrats de télé, l'UFC, c'est ça qu'ils ont fait. Et en 2002, quand les frères Fertitta ont acheté l'UFC, finalement, là, ils ont mis beaucoup, beaucoup d'argent pour la promotion, pour les combattants aussi. On a mis des gants obligatoires parce que les gants, c'est pas pour éviter l'impact des coups, c'est pour éviter les coupures. Donc, on voulait allonger les combats, justement, ouais. avec les gants pour éviter les coupures, les catégories de poids. Donc, ça a évolué énormément. Puis en 2005, l'UFC était sur le bord de faire faillite. Et les frères Fertitta, Lorenzo Fertitta était à veille de mettre la clé dans la porte. Puis avant de faire ça, il disait un peu, je vais dormir là-dessus. Puis le lendemain, il a eu l'idée de faire The Ultimate Fighter, la première saison, The Ultimate Combattant. Et c'est ça qui a sauvé le sport comme tel, mais c'est ça qui a sauvé l'UFC. C'est exactement ça. Puis après, surtout le combat final qui est légendaire encore aujourd'hui entre Stephen Bonner et Forrest Griffin, c'est ce combat-là qui a sauvé l'organisation. Et depuis ce combat-là, c'est le sport qui a connu la plus grande popularité de toute l'histoire des sports aujourd'hui.
Comment se fait-il que Patrick Côté, qui s'est battu régulièrement, qui a donné des coups, mais qui en a mangé aujourd'hui, soit capable de parler puis d'avoir avoir tout son esprit, puis toutes tes phrases se tiennent, puis quand tu as un objectif, tu es capable de nous l'expliquer et tout ça? Moi, je me souviens des boxeurs des années 80-90, ils bégayaient tout. Là. On avait de la misère à les comprendre, puis des fois, ça prenait même un traducteur à côté. Qu'est-ce qui fait en sorte que vous avez été capable, toi, puis j'écoutais Georges St-Pierre en conférence il y a de ça quelques semaines. Qu'est-ce qui fait que vous avez été capable de prendre soin de votre corps pour qu'aujourd'hui, vous soyez capable d'avoir une après-carrière qui a vraiment du bon sens, surtout dans ton cas?
Bien, tu vois, les combattants de l'époque juste avant nous, il y en a beaucoup qui sont maganés. Parce que, tu sais, les connaissances sur soit, tu sais, on faisait pas du sparring, tu sais, même quand on a commencé en 2004, 2005, 2006, on faisait du sparring à tous les jours, ce qui fait pas de sens, tu comprends? Mais c'est de la manière qu'on s'entraînait, on se revoit des coups de poing quasiment tous les jours sur la tête. Mais nous, on était là dans l'espèce de processus, on a contribué à l'évolution de ce sport-là, tu sais, on était là quand le sport a évolué, donc on a évolué ensemble. Les connaissances d'entraînement, les connaissances de nutrition, les connaissances de prendre soin de notre corps aussi, on les a toutes acquises avec ces années-là. Surtout moi, parce que moi, mon style, je me battais debout, j'étais renommé pour avoir une bonne capacité d'encaisser, donc dans la vie de tous les jours, ça ne vaut pas rien, là, mais dans mon sport, je dis, c'est assez important. Puis j'ai fait des guerres incroyables, puis je veux dire, mon menton, comme dans le langage, mon menton m'a sauvé une coupe fois. Mais à un moment donné, tu vieillis, puis là, tu viens avec, tu acquéris de l'expérience, puis là, tu te dis, OK, vu que j'ai une bonne capacité d'encaisser, je ne vais pas le surutiliser. T'sais, je vais essayer de le protéger le plus possible. Comme ça, à un moment donné, ça va me sauver la vie si on va dans un échange, puis j'en vois pas un arriver, puis je vais être capable de l'encaisser. Donc, il y a ça aussi. Tu développes aussi, dans le langage du combat, on appelle ça un fighting IQ, là, une intelligence de combat aussi, que c'est pas juste. À un moment donné, tu veux donner un spectacle, mais à un moment donné, il faut que tu penses à ta santé aussi. Puis, on a été assez intelligents, je pense, et là, tu parlais de Georges tantôt, mais Georges et moi, pour arrêter quand c'était le temps. Je veux dire, on a fait ça pendant 15 ans de temps. Puis, à un moment donné, on s'est dit, je parlais pas pour lui, je parlais pour moi. Moi, je me suis dit, OK, là, je suis tanné. T'sais, puis, comme je t'ai dit tantôt, tu peux pas faire ça à 50-75%. Puis, puis l'important aussi, c'est que les deux derniers combats que j'ai fait dans ma carrière, tu sais, je me suis fait frapper plus fort que dans les 15 dernières années que je me battais. C'est pas parce que mon menton était moins bon, là, c'est juste parce que je vieillissais, les coups que j'ai voyais moins venir aussi. J'ai eu énormément de blessures dans ma carrière. Mon corps est magané, ma tête est correcte. C'est ça l'important. Puis lorsque j'ai eu ma fille en 2016, moi j'ai pris ma retraite en 2017, lorsque j'ai eu ma fille en 2016, moi, pour moi, c'est super important. Il n'y a pas d'image de moi n'importe où sur YouTube, sur Google ou quoi de même, que moi qui est à terre, en knock-out ou en convulsion, quoi, ça n'existe pas. Puis pour moi, c'est super important que ça n'existe jamais parce que là, maintenant, j'ai deux enfants. Là, mais à un moment donné, même ma fille, là, elle a 7 ans, elle commence à vouloir savoir ce que je faisais avant, puis elle regarde des photos, des choses comme ça, des vidéos. Ça n'existe pas, des affaires. Moi, à terre, knock-out, en convulsion. Puis pour moi, ça, c'était super important. Puis, depuis le jour 1, on parlait tantôt du combat de trop, ça a été ma peur. Ça. Depuis le jour 1 que j'ai commencé à faire ce combat-là, faire cette vie-là, je me suis dit, jamais je vais m'acharner à faire le combat de trop. Je suis vraiment fier de m'être acharné à garder cette mentalité-là dans ma tête, de sortir quand c'était le temps.
Ouais. Dans ce monde-là, vous êtes extrêmement convoité, vous êtes extrêmement visible. Il y en a qui ont réussi à faire beaucoup d'argent. Des gens qui tentent de vous approcher constamment. L'alcool, la drogue, les bars. C'est-tu compliqué de garder la tête froide quand tu es un combattant UFC comme tu l'as été?
Ça dépend quel âge que tu as, je te dirais. moi, j'ai connu mon premier pic de popularité, je l'ai connu, puis pas à peu près, en 2006, 2007, 2008, je dirais. Là. Et là, c'est dans ce temps-là, dans ce temps-là que les gros commanditaires sont arrivés avec de l'argent à pu finir. Moi, j'ai fait le tour de la planète gratuit là, à cause de ça, là, pour vrai. Puis on voyageait tout en first class. On arrivait à Las Vegas, il y avait des parties privées dans des suites incroyables. Tout était payé. Tout était fourni. Il y avait aucune limite. Là. Donc, c'est facile de perdre la tête à cet âge-là. Je te dirais pas que j'ai tout le temps été droit comme un prêtre, là, mais il y a des expériences là-dedans que tu dis, OK, c'est incroyable. T'es vraiment traité comme une rock star. Là. Aujourd'hui, je te dirais, les combattants sont peut-être plus intelligents avec leur marketing que nous, on était dans mon temps. Ils sont mieux accompagnés, je pense aussi, mais au niveau du marketing, c'est vraiment ça aujourd'hui. Moi, quand je me battais, c'était le sport avant le spectacle. Maintenant, c'est le contraire. Tu comprends? Il faut quand même que tu performes sportivement, mais je te dirais que c'est plus un spectacle sport qu'un sport spectacle maintenant.
Là, toi, ta carrière est un peu différente puisqu'aujourd'hui, bon, tu es dans les médias, tu animes sur RDS, tu fais tes conférences, mais est-ce que c'est dur quand les lumières s'éteignent?
Ben oui,
quand
c'est vraiment dur.
Quand tu n'entends plus, Patrick Côté, Côté le combattant, est-ce que c'est difficile de revenir comme à la vie des gens ordinaires, mettons?
Ben absolument. T'sais, moi, là, pendant 15 ans de temps, à part quand je prenais des vacances après un combat, mais ça durait 2 semaines, mettons, là, puis je savais que c'était des vacances. Mais pendant 15 ans de temps, moi, je partais le matin, j'allais m'entraîner 2-3 fois par jour, puis je revenais le soir. T'sais, ça a été ça, ma vie, pendant 15 ans de temps. Puis c'est une passion, puis je voulais faire ça. Quand j'ai pris ma retraite, le premier lundi que je me suis levé chez nous, là, puis le bébé pleure dans le salon, le chien court, il jappe. Là, je suis pas supposé d'être ici. Tu fait que le premier lundi que t'es supposé retourner au gym, mais que t'es chez vous, là, t'as comme une petite crise de panique. Mais moi, ce qui m'a aidé, il y a deux choses qui m'ont aidé à prendre ma retraite. C'est que moi, je peux dire que je suis privilégié, que je suis parti de ce sport-là sous mes propres termes. Je suis parti parce que moi, je voulais m'en aller. Pas parce que j'étais plus capable de compétitionner, pas parce que je me suis fait mettre dehors, pas parce que je me suis fait knocker. Puis c'était grave de rester. Je suis juste parti parce que j'étais tanné. J'étais tanné de, pas de cette vie-là, mais j'avais plus la passion comme j'avais avant. Donc, c'est pour ça que mon dernier combat que j'ai fait à Buffalo, je savais que c'est mon dernier combat. J'avais pris la décision 2 mois avant, mais je n'en ai pas parlé à personne. Même ma femme ne le savait pas. Parce que je voulais tout vivre ces derniers moments-là toute seule. Donc, je ne voulais pas partager ça avec personne. Donc, je savais que ça allait être ma dernière voyage avec les boys. Je savais que ça allait être ma dernière coupe de poids, ma dernière déshydratation, ma dernière pesée, la dernière fois que je marche vers l'octogone, la dernière fois que Bruce Buffer dit mon nom, la dernière fois que je vois les yeux d'un combattant en avant de moi dans l'octogone. Pour moi, c'était super important juste de prendre tous ces moments-là et de savoir que c'était juste moi qui allait savoir que c'était la dernière fois. Puis ça m'a vraiment aidé. Puis quand j'ai pris ma... À la fin, Joe Rogan est venu me faire une entrevue, puis j'ai dit que c'était fini, c'était terminé. Tout le monde était sous le choc. Puis, tu sais, ma femme, elle a compris. Elle a dit non, t'as bien fait. T'sais, tu devais ça à toi pour tes 15 années de sacrifice que t'as fait. C'est intelligent. Et l'autre chose qui m'a aidé beaucoup, c'est que je suis encore en relation avec le sport. T'sais, ça fait 15 ans que je suis commentateur pour l'UFC. Moi, je suis engagé par l'UFC encore. C'est pour ça qu'on suit la job un peu. Là, si ça s'en va dans un autre cas... télédiffuseur, ben on va suivre, tu sais. Donc, tu sais, j'ai resté depuis... J'ai fait combattant et analyste longtemps en même temps, mais je pense que ça m'a aidé à faire la transition. C'est jamais facile de prendre la retraite, là, mais ça m'a aidé à faire la transition aussi. Puis, il y a une personne qui m'a donné le meilleur conseil au monde, c'est Patrice Brisebois, l'ancien joueur de hockey des Canadiens, puis il m'a dit, tu sais, Pat, il dit, t'as bien beau avoir 40 ou 50 millions dans ton compte de banque, si tu t'es pas préparé à ton après-carrière, tu vas sombrer dans dépression, alcool, drogue, peu importe. C'est pour aller rechercher ces sensations-là. Depuis qu'il m'a dit ça, je me souviens, il m'avait dit ça en 2009. Depuis qu'il m'a dit ça, ça m'a toujours resté dans la tête. Je me suis dit, OK, mais que je prenne ma retraite, je vais être assez occupé pour pas m'ennuyer de ce sport-là.
Très intéressant. Puis tu as mentionné que tu étais analyste, puis en plus tu étais combattant. Est-ce que c'était pas tu souffrais des comparaisons parfois? Est-ce qu'il y a des gens qui disaient « Hey, t'as dit telle affaire de tel combattant, mais toi, dans ton combat, t'as fait exactement la même affaire que tu dénonçais pendant ton émission? » Est-ce que c'était un peu plus dur parce que toi, tu faisais l'analyse aussi?
Non, je te dirais que ça m'a aidé à devenir un meilleur combattant,
ah oui,
être okay. Analyste. Parce que, tu sais, je voyais tellement de situations, je décrivais tellement de combats que, tu sais, veux pas dans le subconscient, c'est sûr que ça m'a amené à devenir un meilleur combattant au niveau de l'intelligence de combat parce que j'en voyais tellement, puis l'étude, tu sais, les combattants, je les connaissais tous par cœur. Puis à Montréal, ici, c'est arrivé 4 fois que je me suis battu. J'ai fini mon combat, j'étais allé mettre mon sou, puis j'ai fini le gala à la table d'analyste. Le réalisateur, il capotait. Il dit, ben non, tu peux pas faire ça. Pourquoi je peux pas faire ça? C'est illégal. Il dit, ben non, on veut que tu le fasses, mais ça a pas de bon sens. Ouais. Genre, c'est correct. Puis ça a donné que j'ai pas mal tout le temps gagné ici à Montréal, donc c'était le fun d'aller finir le broadcast avec eux autres en français. Puis, tu sais, souvent, ça se terminait avec un combat de Georges. Fait que, tu sais, c'était fantastique.
Ouais. Puis, comme tu étais analyste, est-ce que lorsque tu regardais tes propres combats, d'ailleurs, est-ce que tu le regardais le lendemain, ton combat, ou tu le regardais plusieurs semaines plus tard? Puis, c'était-tu plus difficile pour toi parce que tu avais développé justement cette capacité d'analyse pour les combats?
Tu sais, honnêtement, j'ai pas souvent regardé mes combats par la suite. Ouais. Tu sais, pour vrai, là, je regarde plus mes entrées que mes combats. Tu sais, aujourd'hui, quand je m'ennuie de tout ça, là, ouais. J'ai tous mes combats sur l'ordi, je regarde juste mes entrées, surtout les entrées que j'ai faites à Montréal, qui avaient 20 000 personnes qui crient ton nom. Là, quand tu rentres comme dans un tunnel de monde. Ça, c'est ce feeling-là qui va toujours me manquer. Le sport, tu sais, me battre, je m'ennuie pas de ça. Si je m'ennuie de me battre, je vais aller au gym mettre les gants de boxe, puis on va se taper dessus, puis ça va calmer mon espèce d'ennui de ça. Mais je m'ennuie pas de me battre. Mais toutes ces situations-là que je peux pas recréer nulle part ailleurs, Bruce Buffer qui crée mon nom, je veux dire l'entrée vers l'octogone, tout ça, ben c'est un peu pour ça que j'ai pris le dernier combat égoïstement, puis juste vivre ça toute seule.
Non, mais c'est parfait. La façon dont tu l'as fait, moi, je trouve ça parfait. Est-ce que tu restes impliqué auprès des jeunes qui veulent faire ce métier-là, qui veulent faire le métier de combattant UFC?
Oui, ben tu sais, je m'entraîne encore, surtout en jiu-jitsu, là, tu sais, puis en lutte, puis tu sais, il y en a plein qui viennent me voir des fois, puis j'ai pas le temps d'entraîner quelqu'un, puis honnêtement, bien honnêtement, ça me tente pas pantoute. J'ai jamais voulu être un entraîneur comme tel, mais je vais toujours être là pour répondre des questions puis aider la relève. Ça, c'est sûr et certain. Puis tu sais, je donne des séminaires aussi de combat aussi, puis ça me fait plaisir Mais tu sais, je me vois plus agir comme un mentor que comme un entraîneur. Tu sais, il y a deux affaires là-dedans, c'est que j'ai pas le temps pour faire ça, puis je pense pas que ça serait honnête pour moi de m'investir à moitié sur quelqu'un qui a confiance en moi, que je le prenne sous mon aile. Tu sais, j'aime mieux être bien honnête avec lui, puis je lui dis, gars, si t'as besoin d'aide, quand je suis là, ou si je peux, m'a le faire. Mais je peux pas m'occuper de toi à 100%, tu sais, puis c'est pas quelque chose que je désire comme tel non plus.
Puis ta relation avec les fans, ça peut ressembler à quoi, tu sais, là, tu restes au Québec maintenant, tu restes encore au Québec, je pense que oui, hein? Tu restes encore
ouais.
Ta relation avec les fans, c'est quoi aujourd'hui? Est-ce que tu entretiens encore ce cercle-là avec des fans et tout ça, ou ben tu restes le pas de côté qui est dans l'ombre et tout
ça? Non, ben tu sais... Tu sais, l'affaire, c'est que tu disais pas de côté dans l'ombre. C'est sûr que, tu sais, ici au Québec, c'est le monde à Georges. Puis ça a tout le temps été ça, puis c'est correct. Puis Georges, c'est un de mes meilleurs amis. Puis, tu sais, il n'y a aucun problème avec ça. Puis, il y en a souvent qui m'ont posé la question. Tu sais, ça t'a-tu mis? Tu sais, t'étais-tu fâché d'être dans l'ombre de Georges? Puis, tu sais, t'as quand même. Vous avez été les deux plus grands Québécois à l'UFC, mais c'est sûr, on a parlé de Georges beaucoup plus, mais avec raison. Je veux dire, c'est le GOAT, c'est le greatest of all time de ce sport-là. Je veux dire, c'est le meilleur de l'histoire. Puis, je suis fier de dire que c'est mon ami, puis que ça a été un partenaire d'entraînement, puis c'est un gars de chez nous, tu sais, c'est un gars du Québec. Puis, la deuxième raison que ça me dérange pas, c'est que j'ai jamais voulu être un deuxième Georges St-Pierre, moi. Tu sais, moi, j'ai toujours voulu être le premier Patrick Côté, puis je pense que c'est ça que j'ai réussi, puis je suis fier du parcours que j'ai fait. Puis, aujourd'hui, c'est drôle à dire parce que je pense que le monde, les fans, se sont plus reconnus en moi que se sont reconnus en Georges. Tu sais, Georges, c'est comme Superman. Hein. C'est comme l'inatteignable. Tu regardes ça, puis tu dis, OK, t'sais, c'est un Sidney Crosby, c'est un Michael Jordan. T'sais, tu peux l'avoir comme idole, mais tu peux pas dire, OK, si lui, il le fait, moi, je vais pouvoir le faire. Tu sais, parce que c'est comme une icône incroyable. Moi, par exemple, j'aurais pas été ton voisin, puis tu saurais pas tout ce que je faisais.
T'es l'underdog. T'es l'underdog qui est sorti dans l'univers à un moment donné. OK, je comprends.
Exactement. Puis honnêtement, puis je vais tout le temps le dire, puis c'est bien correct avec ça. J'étais pas un grand athlète, mais j'étais un bon combattant. Tu sais, souvent, le talent, c'est pas ça qui va t'amener le plus loin possible. J'étais pas le plus talentueux des athlètes. J'étais pas le plus talentueux des combattants qui étaient à l'UFC. Mais il y en a qui ont bien plus de talent que moi, qui n'auront jamais de combat de championnat du monde parce qu'ils n'ont pas assez de cœur ou qu'ils n'ont pas assez une tête dure, tu comprends? Fait que moi, je pense que j'ai démontré que si tu as vraiment un but et tu es passionné, puis si tu veux, ben tu peux vraiment arriver à ce que tu peux arriver. Parce que moi, je me suis rendu en combat de championnat du monde face à ce temps-là, un gars qui était imbattable, Anderson Silva, puis c'est moi qui l'ai rendu au troisième monde en premier, puis c'est moi qui a démontré qu'il était probablement battable, ce gars-là. Rendu à ce niveau-là. Donc, tu sais, c'est pas des choses. Moi, je vis pas avec des regrets. Moi, j'ai fait ma carrière à moi, on a un parcours, tout le monde qui est différent. Puis, Georges, je me compare pas à lui, mais je me suis tout le temps inspiré de lui. Puis, je pense pour ça que j'ai tout le temps été en paix avec nos deux fanbases. Je pense que les Québécois nous ont aimés chacun de leur façon. Puis, je pense que le monde se sont. Je ne veux pas dire que se sont plus reconnus à moi, mais en voulant dire, OK, même si lui est capable de faire ça, Pat est capable de faire ça, mais je pense que c'est accessible à pas mal tout le monde.
Oui. Je me reconnais plus peut-être dans un Pat Côté que dans un Georges St-Pierre. Moi, je t'ai rencontré, je te vois là, on se parle par Zoom. Georges St-Pierre, j'y ai parlé, j'ai serré la main. Il était de passage à Québec, puis c'est un gars super sympathique. J'ai écouté sa conférence. D'ailleurs, on va parler de ta conférence tantôt aussi. Je veux absolument en parler. Mais tu sais, de voir à quel point ce gars-là, c'était maladif. T'sais. Il voulait vraiment être le meilleur combattant. T'sais, on retrouve ça dans Sidney Crosby, on retrouve ça dans Conor Bedard, des gars qui vont tous laisser leur vie de côté uniquement pour leur sport, puis ils vont être dédiés du matin jusqu'au soir. Moi, j'ai beau avoir beaucoup de passion dans la vie, mais j'aime ça quand il y a un certain équilibre. T'sais, j'ai ma famille, j'ai mes enfants, ma conjointe, j'ai mes amis. Je pense que toi, tu as réussi à être bon dans toutes les sphères de ta vie, tandis que certains, comme Sidney Crosby, pour ne pas le nommer, quand il était à Rimouski, ben, ses chums sortaient, puis lui, il restait chez eux à lancer des rondelles pour essayer de s'améliorer. Il sortait pas, il ne vivait que pour le hockey. Même affaire pour Conor Bedard, qui lance à peu près 1000 rondelles par jour dans un
film. Mais
moi, j'aurais jamais pu faire ça.
Non, c'est ça, mais tu sais, faut que tu sois comme ça aussi, si tu veux dominer ton sport. T'sais, honnêtement, te rendre en haut, c'est difficile, mais d'y rester, c'est encore plus difficile. Tout le monde s'entraîne pour te déloger.
Ouais.
Tu sais, Georges a défendu son titre 9 fois, là. C'est quasiment irréel. Honnêtement, c'est irréel, là. Puis tu t'entraînes tout le temps avec. Tu t'entraînes pas, mais tu te bats tout le temps contre le meilleur qui reste. C'est extraordinaire ce qu'il a fait de défendre son titre 9 fois, là, prendre 4 ans d'absence, revenir et aller chercher le titre des 185 livres. C'est historique. Là. Puis, tu sais, je veux dire, à un moment donné, il faut appeler un chat. Là, je veux dire, tu peux pas être. Il faut que tu sois un peu. Je vais passer un toc d'entraînement ou un toc vraiment de ça pour devenir à ce niveau-là. Tu n'as pas le choix. T'sais.
Exact. Puis, tu sais, ce que tu as dit concernant quand tu es champion, Georges St-Pierre l'a dit dans sa conférence de presse, il dit « Vous avez pas idée à quel point c'est dur d'atteindre les sommets des sports, mais une fois que tu es au sommet, c'est encore plus difficile d'y rester. »
Voilà. Ouais. Ben non, mais il a raison. Tu sais, parce que tu te fais tout le temps chasser. T'es dans la cible de tout le monde. Puis, en plus, la promotion, tu utilises... C'est incroyable comment la promotion t'utilise pour faire justement de la promotion autour de l'événement, mais pas juste ça, autour de l'organisation aussi. C'est extrêmement demandant d'être champion de l'UFC, honnêtement. Pas juste pour les combats, mais pour tout ce qui entoure le fait d'être champion.
Question de Joshua, 9 ans. C'est mon gars à moi. Il voulait absolument que je te pose cette question-là. Lui, c'est un fan de UFC, puis il adore te voir décrire les combats de UFC. Je l'enregistre en passant. Là. On réécoute ça le lendemain. On n'écoute pas ça le soir tard. Il m'a demandé, est-ce que ça fait mal quand on fait du jiu-jitsu, se ramasser avec les oreilles en chou-fleur?
Ben là, ça fait plus mal. Mais oui, le, quand... Il faut comprendre les oreilles en chou-fleur. Là, là, mes oreilles, ils ne plient plus. Là, c'est du cartilage, c'est extrêmement dur. Pourquoi ça fait ça? C'est que lorsque tu reçois un coup ou un frottement, c'est un peu comme quand tu as de l'eau dans le genou. Il y a une inflammation, puis là, tu viens que tu as du liquide dans l'oreille. Okay. Et là, c'est là que ça fait mal. Donc, il faut que tu la draines avec une seringue. Tu n'as pas le choix. Ah, oui. Puis après ça, ben, tu tapes la tête pour pas que, pour que ça soit serré, pour pas qu'il y ait du liquide qui revienne. Mais à force que ça arrive, ben là, ben, il faut que tu t'aies drainé, puis là, ça va former du cartilage. Ben, ben, ça, t'en as plus, là. On appelle ça des oreilles de chou-fleur. Là. Mais oui, sur le coup, c'est pas plaisant, là, honnêtement. Là.
Oui. Ben lui, il serait intéressé à faire du UFC, mais il disait, je sais pas si je vais être beau avec mes oreilles en chou-fleur. Ben là, à un moment donné,
ben, t'sais quoi?
Faut que tu payes.
Mais tu sais quoi, ça s'opère, hein? Puis tout le monde, tu sais, ça s'opère. Mais moi, tu sais, ça fait partie de moi. Ben puis oui. Pour moi, c'était comme pas un trophée, mais je sais pas, tu sais, ça montre mon parcours. Puis, tu sais, ces oreilles-là, sont parfaites là, pour moi. Là, tu sais, c'est moi. Là. Tu sais, je me vaux pas enlever ça. Puis, il y en a qui sont bien pires que les miennes, je te confirme.
Mais ça fait partie de ta personnalité, ça fait partie de ton histoire, comme tu l'as dit. Hey, je rappelle qu'on va faire une petite pause 30 secondes, Pat. Je rappelle que souvent, on est avec Patrick Côté, qui est animateur à RDS, qui est un ex-combattant MMA dans la UFC. C'est aussi un conférencier. Pour les gens qui... on va parler de ta conférence après la pause, mais pour les gens qui sont dans leur voiture présentement puis qui veulent en savoir plus sur tes conférences pour que tu puisses venir en entreprise et tout ça, ils peuvent te rejoindre de quelle façon? Y a-t-il une façon de rejoindre Patrick Côté?
Oui, ben vous pouvez aller sur mon site web, patrickcôté.com, ou sur mon agence ma compagnie de gérance, donc ppscanada.ca. Donc, c'est ma compagnie de gérance.
On fait une courte pause, puis on revient tout de suite.
Marceau, le soir. Boulevard, fier de vous présenter le nouveau rock. Blink 182, one more time. You ought to die to hear you miss me. You ought to die to hear you say goodbye. I wanna act like there's tomorrow. I don't wanna wait to do this one more time. One more time. Consultez notre sélection musicale et votez pour les nouveautés et les radars au blvd.fm ou sur l'application mobile.
Marceau Soir, présenté par Voyage Aquaterra Lévis Québec. Visitez la nouvelle agence de Québec. Maintenant, 2 adresses pour vous servir, boulevard Bastien à Québec et avenue Taniata à Lévis.
Le dimanche 8 octobre, encourage le Rouge et Or. Dès 13h au Stade TELUS, où le Rouge et Or affrontera les Stingers de Concordia. Viens t'échauffer avec ta gang au tailgate d'avant-match Boulevard 102.1. Consommation, bouffe, ben du fun t'attendent. Cours la chance de gagner une carte cadeau de notre collaborateur Laurier Québec. Dimanche 8 octobre, le Rouge et Or contre les Stingers de Concordia.
billets au rougeetor.ulaval.ca. Bienvenue à Québec.
Chez Sport Expert et Atmosphère, c'est la méga liquidation automne-hiver. Obtenez de 30 à 50 % de rabais sur une vaste sélection de manteaux, bottes, vêtements et chaussures des plus grandes marques pour toute la famille. Détails en magasin.
Faut qu'on parle. J'ai l'impression que je t'intéresse plus. Quand on est ensemble, tu regardes ailleurs. Tout semble plus intéressant que moi. Je le sais que je suis plate, là. Je le sais que tu veux garder tes vieilles habitudes. Mais j'aimerais ça sentir que tu me regardes, que t'es concentré sur moi. J'aimerais sentir que j'ai toute ton attention. Sinon, tu pourras avoir un accident.
La route a besoin que vous soyez concentré. Au volant, portez toute votre attention sur la route. Un message de la Société de l'assurance automobile du Québec.
Leclerc Communication félicite l'équipe Paquet Nissan, honorée au niveau national du prix d'excellence Nissan et au niveau international du prix Nissan Global. Et dans les deux cas, premier dans sa catégorie. Bravo Paquet Nissan, une histoire de famille et de succès.
À la recherche du cadeau parfait pour vos employés ou vos clients, on l'a trouvé pour vous. Le haut-parleur sans fil SG Balade de Sounds Good. Vraiment trippant. Grosse commande ou solution à plus petite échelle, des solutions cadeaux sont offertes pour les entreprises. Détails sur soundsgood.ca.
Je suis tellement excité de notre nouvel appart. Il y a tellement d'espace avec un parc clôturé juste pour moi. Je peux courir, jouer, faire plein de belles rencontres. Ou justement, voilà la voisine du deuxième. Je pense que je vais aller lui renifler.
Kiwi! Viens-t'en, on remonte à l'appart.
Muzo par Logisco. L'appart parfait pour votre chien et vous à Sainte-Foy.
Manquer le premier tournoi de sa fille parce que la voiture ne démarre pas. Ouf, c'est pas parfait. Mais pour une bonne mise au point, c'est juste parfait chez Desharnais.
Et du 2 au 29 octobre, en plus de la remise allant jusqu'à 125 $ à l'achat de 4 pneus Goodyear sélectionnés, profitez d'un rabais instantané additionnel de 70 $. Une offre exclusive .s. Goodyear, tenue de route, durabilité et confort incomparable.
Pour le service, la mécanique et vos pneus, Desharnais, c'est juste parfait.
RCM, entrepreneur général spécialisé dans la construction modulaire d'écoles, d'hôtels et autres au Canada et États-Unis, vient d'ouvrir un bureau à Lévis. Pour appuyer sa croissance, RCM est à la recherche de dessinateurs et de chargé de projet des postes clés. Joins-toi à une équipe dynamique et engagée. Postule au carrière.fr.
Tout le monde sait que le meilleur est chez Fromagerie Victoria. Tout ce qu'il vous reste à décider, c'est poutine salle à manger, poutine service au volant ou encore en livraison sur l'application DoorDash. Avec nos 5 succulentes sauces et fromages en grains 100% lait, vous n'aurez qu'à déguster la meilleure poutine au Québec dans un de nos 6 restaurants de la région ou encore dans le confort de votre demeure. Fromagerie Victoria, familiale depuis 75 ans.
Application Boulevard, dans une poche près de chez vous. Poche de jeans, poche de shorts, pis même ta poche d'hockey. Appelez, textez, votez, réécoutez. L'app Boulevard 102.1. C'est plus que du rock. Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le Marceau, soir. Le soir. Le soir.
Je rappelle que ce soir, on est avec Patrick Côté, qui est animateur RDS, ex-combattant MMA dans la UFC et qui est aussi conférencier. Bon, je voulais garder un petit 2-3 minutes avec toi, Pat, justement, pour parler de ces fameuses conférences-là où tu rencontres les gens pour parler un peu de ton histoire, de ton parcours. Ça fait-tu longtemps que tu as commencé à faire des conférences?
Ouais, ça fait quand même 5-6 ans. Tantôt, j'ai dit ppscanada.ca, mais c'est ppscanada.com.
Voilà.
Donc PPF, donc Patrick, fcanada.com. Donc, si vous voulez avoir une conférence ou juste booker pour animation, peu importe, toutes les infos sont là. Ça fait quand même, moi, en 2016, j'ai sorti mon premier livre, dans le fond, qui s'appelait Tout est possible, qui est un livre justement sur la motivation et la résilience. Et après ça, en 2018-2019, j'ai commencé à faire des conférences qui ont rapport avec ce livre-là. Donc, les conférences dans des écoles secondaires, des écoles au cégep, des écoles professionnelles, dans des corporatifs aussi, dans des équipes sportives. J'étais allé en faire pour des équipes de la Ligue junior majeure du Québec aussi. Donc, c'est vraiment une conférence qui parle de mon parcours, des embûches que j'ai eues, comment j'ai fait pour revenir au sommet. Je parle d'une phrase qui a changé ma vie, qui est de contrôler le contrôlable. Ça a complètement changé ma vie. C'est sûr que dit de même, ça ne veut pas dire grand-chose, mais expliquer, vous allez voir que si tu es capable d'atteindre ce niveau-là, de vraiment utiliser cette phrase-là, contrôler le contrôlable, t'enlèves ton stress à 90 %.
Ouais. Est-ce qu'on peut dire avoir une certaine résilience? On peut-tu remplacer ça par résilience?
Non, je te dirais contrôler le contrôlable, c'est de ne pas s'en faire avec ce que tu ne peux pas contrôler. En voulant dire que, tu sais, je donne des exemples. quand que je vais donner des quand je vais donner des conférences dans des écoles secondaires, je pose tout le temps la question, genre, qui est nerveux d'avoir sa note après un examen? Puis là, tout le monde lève les mains. Puis là, je lui dis, mais ça fait pas de sens. Parce que même si tu es nerveux et tu dors pas ce soir-là, puis tu as fait ton examen le matin, ça change, ta note ne changera pas. Donc, comment tu fais pour contrôler le contrôleur? Puis, hein, de préparer comme il faut. Tu arrives, tu es en avant de l'examen, tu dis, OK, cet examen-là, je vais y botter le cul parce que j'ai bien étudié. Donc, je suis préparé à 100%. Je fais la relation aussi avec mon sport, qui le monde, il me demandait, es-tu nerveux quand tu te vas te battre? Mais la réponse, c'est non. C'est plus l'excitation que j'ai. Parce que je sais que je n'ai pas triché dans mon entraînement, je n'ai pas triché dans ma nutrition. J'arrive dans la meilleure version de moi-même. Puis si ce soir-là, ça ne marche pas, bien, soit mon adversaire a été meilleur que moi, mais je n'ai pas la culpabilité de me donner que j'ai dit, OK, j'ai peut-être pris des coins ronds, ben non, j'ai pris des raccourcis. Donc, c'est pour ça que je contrôle ce que je peux là-dessus. C'est pour ça que, oui, tu sais, je regardais des vidéos de mes combattants, des adversaires. Pas vraiment beaucoup, parce que je ne peux pas contrôler lui qu'est-ce qui va arriver avec. C'est sûr qu'il va essayer d'arriver avec quelque chose que je n'ai pas vu sur les vidéos. Donc, je me contrôlais, ce que je contrôlais, c'est de la manière que moi j'allais m'entraîner, puis essayer de lui de le surprendre avec quelque chose que moi j'ai pu ramener. Puis, l'exemple du trafic aussi, même si je suis fâché dans le trafic, je ne peux pas démonter le char qui est en avant de moi pour passer par-dessus. Donc, ce que je fais, bien, je me prépare, je regarde, il y a tellement d'applications aujourd'hui, c'est du trafic. Je pars d'avance, je regarde, je me prépare pour ne pas me mettre dans une situation qui me rend de l'anxiété ou bien non, ça me fâche. Donc, c'est un peu ça aussi. Puis, je parle que la chance pour moi, ça n'existe pas, les opportunités aussi. Comme exemple, il y en a beaucoup qui disent que le monde qui gagne à la loterie sont chanceux. Oui, leurs chiffres ont sorti, mais se sont créés une opportunité de gagner en s'achetant un billet. T'sais, la moitié du monde, même plus que la moitié du monde, vont critiquer le monde qui gagne à la tri, mais ils ne s'achètent même pas de billets. Ils ne se créent pas une occasion de gagner. Donc, il y a ça aussi dans ces choses-là. Puis j'explique justement que aujourd'hui, j'ai une belle vie, que ce soit émotivement, familialement ou matériel. Puis le monde, des fois, dit « Ah, t'es chanceux, hein, toi? » Ben, je te rappelle ce que je t'ai compté tantôt, le 22 octobre 2004. Là, tout le monde a dit non pour se battre à Tito Ortiz. On est les seuls qui ont dit oui. Ben, je pose la question, toi, t'aurais-tu dit oui? Ben, je pense pas, parce que tout le monde en avant de moi a dit non. Donc, je peux pas dire que je suis chanceux, parce que tout ce que j'ai aujourd'hui, c'est à cause de cette décision-là que personne n'était prêt à prendre, puis moi, nous, on l'a pris. Donc, ça, puis je parle aussi d'être... c'est important d'être égoïste. Je parle de ma famille. J'ai deux enfants aujourd'hui en jeune âge. Je lui ai dit, regarde, eux autres, je tuerais pour eux autres. Là. Mais dans ma vie, c'est pas eux autres les plus importants. La personne la plus importante pour moi, là, c'est moi-même. Parce que si je ne suis pas bien avec ma propre personne, je ne peux pas être un bon père, je ne peux pas être un bon mari, je ne peux pas être un bon ami. Donc, je prends soin de mes problèmes avant d'essayer de régler les problèmes des autres. Un coup que là, ma vie est éclairée ou ma vie est saine, là, je suis capable d'être à 100% avec le monde qui m'entoure.
C'est très bien dit. Patrick Côté, ça a été un plaisir de m'entretenir au-delà de 60 minutes avec toi. Puis je te souhaite de passer une belle fin de soirée. Puis on s'en jasera peut-être une prochaine fois dans d'autres circonstances.
Ah, y a pas de problème, je suis tout le temps prêt.
Merci beaucoup, on se laisse là-dessus. Les podcasts s'en viennent dans les prochaines minutes. Puis moi, ben, je vous retrouverai demain à 11h pour ce qui est de Marceau le midi. Bye-bye, merci.
Marceau le soir.
Marceau le soir, présenté par Voyage Aquaterra Lévis Québec. Visitez la nouvelle agence de Québec. Maintenant, deux adresses pour vous servir. Boulevard Bastien à Québec et avenue Taniata à Lévis.
À Boulevard, on est une gang de tripeux. Tripeux de musique, tripeux de sport.
Listen all you New Yorkers.
Donc, on t'envoie vivre le rêve dans la grosse pomme pour un rock'n pop.
Oh, 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 here we go.
La partie rock, un show de Jimmy Eat World et de Fall Out Boy.
Côté puck, une game des Rangers.
Pis tout ça au légendaire Madison Square Garden. C'est comme gagner sa résidence à New York City, baby!
Dès mardi, reste à l'écoute et note au blvd.fm l'heure à laquelle tu entends une toune de Fall Out Boy.
Gagner ton trip pour aller les voir en spectacle et assister à une partie des Rangers à New York, comprenant hébergement et transport. Boulevard 102 et La Poutinerie, fiers partenaires de tes trips de Rock'n'Pop.
La Poutinerie, la référence en poutine à Québec.
Succombez à la fraîcheur des tartares Couteau. Avec des formules 4 à 7, jeudi des dames et mercredi à volonté. Couteau Beauport, Neuchâtel et Saint-Joseph, les plus grosses portions de tartares en ville.
Vous avez le dos barré ou les oreilles qui sifflent et vous n'avez pas de médecin de famille? Utilisez le guichet d'accès à la première ligne en appelant au 811, option 3. Pour plus d'efficacité, explorez les options autres que l'urgence. Visitez québec.ca/accès-santé. Un message du gouvernement du Québec.
Les instruments de musique Long & McQuaid vous invitent à profiter de la promotion Rocktober, une présentation de Yorkville Sound. Découvrez de superbes aubaines et échelonnez vos paiements sans intérêt à l'achat de produits de marque tels que Gibson, Yorkville, Trainer et Shure. Agrémentez votre automne avec une touche de rock'n'roll. La promotion Rocktober pendant tout le mois d'octobre chez Long & McQuaid. Visitez long-mcquaid.com pour en savoir plus. Long & McQuaid, là où la musique commence.
Y a-t-il matin où vous avez l'impression de faire du surplace, que rien n'avance? Heureusement, c'est juste parfait en tout temps chez Desharnais.
Et jusqu'au 15 décembre, obtenez une remise allant jusqu'à 100 $ à l'achat de 4 pneus Nokian Tires sélectionnés. Pour la tranquillité d'esprit en toutes circonstances, Nokian Tires, c'est un parcours exceptionnel. Détails et prises de rendez-vous en ligne sur desharnais.ca.
Pour le service, la mécanique et vos pneus, Desharnais, c'est juste parfait.
Boulevard. 102.1.
Une certification collégiale en cybersécurité conçue spécifiquement pour ceux qui doivent assurer la protection, la sécurité et l'intégrité des actifs informatiques et informationnels d'une organisation, ça existe. La formation continue du Cégep Garneau propose à ceux ayant des bases en informatique ou en développement web de suivre une formation de spécialisation en cybersécurité offerte en ligne, de soir, avec un horaire allégé à temps partiel. Le programme est subventionné et offert à tarif réduit. Début des cours le 30 octobre 2023. Inscrivez-vous au progresser.ca.
Les journées raccourcissent, mais les soirées automnales sont pleines de plaisir grâce aux boutiques érotiques au 7e ciel. Profitez d'un rabais sur le vibrant à distance Alofa d'une valeur de 100 $ pour seulement 20 $. 911 Charest-Ouest, marché Jean Talon et au 7e ciel.com.
Tu carbures au défi d'envergure? La Ville de Québec recrute des mécaniciens pour participer à la prévention, l'entretien et la réparation d'un parc composé de plus de 3000 véhicules et équipements. Le salaire de 30 $ l'heure pouvant aller jusqu'à 35 $ et 75 $ l'heure. Expérience ou non, on a du travail pour toi. Viens exercer ta passion dans une flotte de véhicules des plus variés et donner vie à la Ville. Postule au ville.quebec.qc.ca. Un message de la Ville de Québec.
Boulevard 102, la radio de Québec pertinente.
Écoutez ce qui se passe et ce qui se brasse dans l'actualité. Pendant ce temps-là, je vais aller voir ce qui se brasse sur Pornhub. Oh, il s'en brasse des affaires!
Qui vous rapporte la nouvelle de façon objective.
La preuve irrévocable de l'existence du loup-garou en audio.
Et si tu crois que
invités percutants.
Oui, petit coup de c'est important. Oh, oui. Commence le martel. J'aurais peut-être un manager.
Une radio intellectuelle.
Moi, je suis scorpion.
Je suis capricorne.
Capricorne.
Je suis vierge. Ça, on savait.
Facile.
une radio spéciale. Boulevard 102.1, la radio spéciale.
Gravel dans le retour, le podcast vous est présenté par Accommodation Chaloux. Parce que chez Chaloux, on veut pas se vanter, mais on a pas mal plus de sortes de bières que Denis peut avoir d'histoires à raconter.
Aujourd'hui, on a le plaisir de parler avec Marie-Pierre Morin de beaucoup de sujets. Je pense que ça va vous intéresser, cette conversation-là. Elle est possible grâce à nos amis des Trois Chaloux de la grande région de Québec. Gravel, t'as donc ben pas de classe, tu vas vendre de la bière à une fille qui en prend plus. Non, non, attention, il y en a beaucoup, hein, des produits sans alcool sur le marché, dont les produits de Marie-Pierre Morin, les produits Mox. Ben sachez que ces produits-là, une infinie variété de produits sans alcool, vous les retrouvez dans vos Trois Chaloux de la grande région de Québec. Que ce soit pour faire attention pendant une couple de jours par semaine, que ce soit pour faire attention une couple de mois par année, ou que ce soit pour faire attention jusqu'à la fin de votre vie, dans vos Trois Chaloux, on est capable non seulement de vous contenter, mais de trouver le produit qui est fait sur mesure pour vos goûts à vous autres. C'est révolu l'époque où il y avait une bière sans alcool qui goûtait le sirop de maïs. C'est plus ça. Maintenant, c'est mieux, c'est beaucoup mieux. Allez découvrir les produits sans alcool de vos Trois Chaloux de la grande région de Québec, Beauport, Saint-Émile et la gang d'Émilie au Grand Marché de Québec.
Gravel.
Gravel dans le retour, le podcast. Une production Boulevard 102.1.
Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Leclerc Communication, c'est 3 stations de radio. Vous connaissez probablement les 2 qui sont à Québec, Boulevard 102.1, la nôtre, celle de Martin Dallaire et compagnie, Matt Marcotte, Weekend 91.9. Mais du côté de Montréal, il y a également une station Weekend qui est au 99.5. Dans le retour, on a la chance de jaser à toutes les semaines avec M. Dess, alias Vincent Dessureau, avec qui on partage le micro depuis de nombreuses années. Et aujourd'hui, j'ai la chance de faire connaissance avec techniquement une collègue de travail.
Ben oui.
Marie-Pierre Morin, bonjour.
Salut.
Ça va bien?
Bien, toi?
Oui, ça fait combien de temps là, que vous avez commencé à faire de la radio le matin?
On est 14 aujourd'hui. Je pense que ça fait comme un mois aujourd'hui. Là. On est le 25 septembre, 24
ouais,
septembre.
Ouais.
On a commencé le 21. Fait qu'on on vient de compléter notre premier mois là, en ondes.
Comment tu trouves ça?
Super le fun.
Ouais.
C'est juste que on dirait que moi, je l'ai fait pendant 3 ans, le morning. Mm-hmm. 2 ans, ça commence bien avec toute l'équipe de Richard Turcotte, Patrick Langlois, Andy Maillé-Pressoir. Puis après ça, j'ai fait 1 an avec Patrick Langlois. On faisait un show qui s'appelait Ménage à 3.
Oui.
Puis c'est comme une habitude de vie. C'est, tout est fait en fonction de ton horaire. Sauf que moi, il y a une nouvelle petite variable qui est arrivée dans ma vie qui s'appelle Margot, mm-hmm. qui a 15 mois aujourd'hui. Fait que j'ai l'impression de toujours être en décalage horaire. Mais c'est parce que mon automne a débuté sur les chapeaux de roue. On avait donc, je dis on. Habituellement, on exclut la personne qui parle, mais là, je parle rien que de moi. j'ai commencé avec la radio. En même temps, j'avais les tournages de À cœur battant, mm-hmm. la série de Radio-Canada. Et on est comme un peu dans le coup d'envoi de Mox, les produits sans alcool que j'ai lancés avec 3 autres partenaires. Fait que c'était comme un très gros horaire. Puis mon chum tourne 2 séries en simultané. Fait qu'une chance qu'on a des grands-mères parce que je pense que la DPJ serait déjà rendue chez nous.
C'est-tu un manque de planification? C'est-tu de l'over-planification d'avoir dit oui à trop de choses?
Tu sais, la fameuse phrase « Be careful what you're wishing for
uh-huh. »,
c'est ça.
Ouais.
Ça, c'est une fille qui était parkée pendant 3 ans.
Qui avait hâte de recommencer.
Qui avait hâte de recommencer. Puis là, j'ai dit « Oui, oui, ça me tente. Ça me tente. » Puis là, à un moment donné, « Oh mon Dieu, c'est tout en même temps. » Mais... manque de planification, ma mère dirait oui, parce que je suis pas la meilleure non plus dans l'organisation, dans la gestion du temps.
Mm-hmm.
Puis moi, j'ai l'impression que mes journées durent à peu près 30 heures. Fait que j'aurais comme un 6 heures de lousse de plus que les autres n'ont pas. C'est ça ma grande erreur.
Puis la radio du matin a ça de cruel, c'est que c'est tout le reste de ton horaire qui devient un peu chamboulé.
Oui.
C'est dur d'additionner des choses dans une journée qui commence, je sais pas pour toi, mais j'imagine vers 3h, 3h30 du matin.
Oui, parce que moi, j'habite... on a quitté Montréal, mon chum et moi, il y a 2 ans. Fait qu'on habite à Grimby, dans les cantons de l'Est. Puis j'ai 50 minutes à faire le matin, donc, pour me rendre, puis 50 pour revenir. Fait que ça fait presque 2 heures par jour où je suis dans ma voiture puis je peux rien faire d'autre. Fait que, oui, je peux faire des meetings, je peux écouter des podcasts, je peux m'inspirer pour mon show du lendemain, écouter les nouvelles. Sauf que... quand j'ai d'autres événements dans ma journée, faut qu'à un moment donné, je dorme. Parce que sinon, ma journée dure 18 heures. Puis là, c'est ça qui n'a pas de sens.
Là, tu as plein de choses en même temps.
Ouais.
Quand la radio est arrivée comme une proposition, est-ce que tu avais beaucoup de choses sur la table ou ça a été une des premières opportunités que tu as eues de te dire « Hey, je reviens, là ».
Je savais déjà que j'allais jouer dans Cœur battant.
Okay.
Mais ça, comme c'est une épisodique, mm-hmm. donc c'est un personnage qui arrive en milieu de parcours, qui reste quelques épisodes. Je pense que le mien dure 6 épisodes.
Et qui meurt.
Et qui, ben, habituellement, ils font mourir.
Ouais, c'est ça.
Moi,
ouais.
J'étais chanceuse, ils m'ont laissé en vie.
Okay.
ils ont été cléments. Ils se sont dit, je pense que l'on va donner une petite chance.
Ouais, c'est bon à voir venir à l'autre saison. Ouais, c'est ça.
Et donc, mon histoire se boucle. Mm. Fait que je savais que ça allait équivaloir à quelques journées de tournage, mais quand la radio est arrivée, je savais que j'avais ça, puis je travaillais déjà sur Mox, mais j'avais peut-être sous-estimé l'ampleur de la tâche, dans le sens où quand tu recommences un projet, de te remettre dans le bain, de retrouver tes assises, fait que oui, c'est peut-être une petite erreur de ma part, mais vois-tu, après cette semaine où là, je suis à Québec, entre autres pour faire ton podcast, mais... Oui. Aussi pour un événement en lien avec Mox, parce que c'est comme le grand rassemblement du groupe Sobeys. Donc, tous les GA, tous les marchands du Québec sont ici cette semaine. Puis là, ben nous, c'est comme un peu le... On espère vraiment bien se positionner face à eux. Et donc, après cette semaine, là, j'ai l'impression que je vais être capable de me déposer parce que tous mes dossiers vont être réglés. Puis là, ça va être vraiment... juste la radio, puis prendre un air d'aller sur trouver mon contenu pendant la journée, pas faire ça vite à 7 heures le soir une fois que le bain est donné à Margot, puis de tout le temps avoir l'impression de courir après ma queue. Là, j'ai l'impression que je vais être capable de me trouver mon rythme à moi.
Pourquoi c'était important d'y aller de cette façon-là? Tu connaissais déjà très bien Patrick Langlois.
Ouais.
Vincent Dessureau, c'était du nouveau.
Oui, ouais, je pensais que tu allais dire que tu connaissais, puis j'étais comme non, je ne connais pas. Ouais, oui, non, ouais.
Moi, je le connais.
Oui,
toi, tu ne le connais pas. Non, c'est ça. C'était-tu important pour toi de partir avec des gens que tu connaissais ou que tu avais déjà un lien de tissé?
Mais c'est drôle parce que dans les dernières années, j'ai croisé à quelques reprises Étienne Boulay. J'étais allée faire son podcast chez lui. Puis il m'avait dit, moi, je parle de toi avec les Bochers Weekend. Puis je sais que Patrick Langlois, de son côté, parlait de moi aussi. Puis là, quand Benoît Simard, notre nouveau boss, est arrivé, c'est comme si les planètes s'étaient alignées parce que lui, il avait ce désir-là, sentait que de la part de l'équipe, il y avait aussi une certaine curiosité. Puis quand j'ai fait mon audition, parce qu'il faut savoir qu'on me l'a pas offert là, sur un plateau d'argent, on m'a quand même fait auditionner. On a fait un genre de...
Des émissions test?
Oui, comme un pilote. Là, avec, je l'ai fait avec Étienne. Puis quand Benoît m'a rappelé, il a dit « On a aimé ce qu'on a entendu. Comment tu vois ça? » Puis ça, j'ai trouvé ça vraiment le fun parce que j'étais comme « Mon Dieu, c'est cool, tu sais, de voir que j'ai une certaine latitude, une certaine liberté au niveau du choix. » Puis là, j'ai dit « Bien, c'est sûr que si tu me le demandes, moi, il y a quelqu'un chez vous que j'aime vraiment beaucoup. Puis je pense qu'on serait super heureux de se retrouver. » Puis c'est Patrick Langlois, puis il a dit « On est à la même place. » Fait que là, ça m'a vraiment touchée. Puis là, il a dit, il y a Vincent Dessureau qui est déjà en place, qu'on aimerait mettre avec vous autres. Moi, Vincent, je le connaissais ni d'Ève ni d'Adam, dans le sens où je l'avais déjà vu à la télé, à Salut, bonjour, mais je connaissais pas le gars. Puis il y a un grand défi, voire un piège de travailler avec quelqu'un que tu connais autant. Par exemple, comme pour Patrick et moi, c'est que la troisième personne ait l'air de la troisième roue du carrosse, soit toujours un peu exclue. Et avec Vincent, c'est complètement l'inverse qui est arrivé. En fait, là, c'est comme si la chimie à trois a opéré de façon complètement magique.
Écoute, au fil des années, c'est peut-être une des personnes les plus faciles à travailler que j'ai eu le plaisir de côtoyer. Puis c'est pour ça qu'on fait encore des collabos ensemble avec une autoroute de distance entre nos deux. Là,
mais c'est un malade.
Oh.
C'est fou parce
dans
que...
le bon sens
du terme.
Oui,
vraiment,
un bon malade.
Oui, un bon malade. Puis Patrick et moi, on est comme deux petits lapins énergiseurs. Là. On est comme full high pitch, tout le temps content. Très optimiste. Puis moi, ce que j'aime de Vincent, c'est à quel point c'est un Debbie Downer. Fait que, tu sais, mettons, je vais dire, c'est formidable, il y a quelque chose qui arrive, puis il est comme Marie-Pierre, s'il te plaît.
Il va te ramener vers le bon un peu. Ouais.
Mais ça me fait tellement rire. Je te dis, depuis qu'on est en onde, il n'y a pas un matin où j'ai pas eu un fou rire monstre grâce à Vincent, sans rien enlever à Patrick, qui est bien smart. je pensais que j'allais être vraiment contente d'être avec Patrick. Finalement, c'était avec Vincent. Mais non, j'adore les deux. Puis je suis vraiment, vraiment contente de la synergie qui est en train de se développer.
Souvent, on a l'impression, nous autres, à partir de Québec, qu'il y a beaucoup de gens à Montréal qui font de la radio en attendant. Tu sais, des humoristes qui font de la radio en attendant leur prochain spectacle.
C'est vrai, hein?
Des gens qui attendent aussi peut-être après un projet télévisuel. Pas que c'est nécessairement quelque chose de négatif, mais c'est la perception qu'on a, nous autres, à partir de Québec. Fais-tu de la radio en attendant ou tu te vois faire ça longtemps?
Hey, c'est vraiment une bonne question. C'est vraiment le fun, le point que t'amènes. Puis c'est vrai qu'on dirait qu'il y a tellement un gros roulement. Mais je me demande si on le... On dirait que moi, je l'ai toujours vu de l'autre côté.
Ouais.
C'est comme si, quand tu fais de la radio, même si tu aimes vraiment ça, puis que tu te vois le faire pendant 5, 6, 10 ans, c'est des sièges éjectables. Fait que je sais pas à quel point c'est des gens qui font ça en attendant, ou si les boss en haut, des fois, font...
Ils n'ont pas de patience.
Ils n'ont pas de patience, ça marche pas, pas patient. Et les parts de marché, c'est pas bon. Poup! On en soigne un dans les airs, puis là, on remplace par quelqu'un d'autre. Je l'avais jamais vu de cette façon. façon-là. Mm-hmm. Moi, je pense que quand tu as un micro, c'est impossible. À moins, mettons, le morning, là, du monde qui trouve à un moment donné que l'horaire est difficile et ou qu'il y a d'autres contrats qui arrivent peut-être, mais c'est tellement agréable. Puis moi, j'ai travaillé quand même chez C'est quoi? Chez Énergie. Mm-hmm. Après ça, j'ai travaillé chez Rouge. Puis ça vient quand même avec une grosse machine qui est belle, puis c'est super normal parce que, tu sais, c'est gros, là. Mais ce qu'il y a de beau chez Weekend, puis là, vu qu'on est une très jeune station, Weekend s'est installé à Montréal en pleine pandémie, en 2020. C'est même un miracle que la station ait survécu. Ben oui.